Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne Scotto, prof de français, mais surtout qui entoure les jeunes avec un projet qui s'appelle De Vive Voix. Bonjour Anne.
Bonjour Sophie.
Alors, chers auditeurs, quand je vous dis atypique, c'est surtout une rencontre atypique. Il y a eu récemment le festival MAP, qui est le festival donc, de la photo. Et Anne a gagné le premier prix, qui s'appelle le fil...
Sur le fil.
Sur le fil. Et donc là, c'est le festival de la photo. C'est une édition reconnue et un festival reconnu. Anne n'est pas forcément passionnée de photos, mais pourtant, son talent a parfaitement été reconnu. Est-ce que, Anne, vous pouvez déjà vous présenter par rapport à votre métier, qui vous êtes, et puis à ce moment-là, on amplifiera après les choses.
Oui, moi, je suis enseignante de français dans un collège du Tarn-et-Garonne, un collège rural. Et quand nous nous sommes rencontrées toutes les deux, j'ai effectivement, pour moi, c'était une grande surprise, gagné le premier prix de ce marathon photo organisé par Poussière d'Images, qui est le grand club photo de Toulouse. Je pratique la photo complètement de façon dilettante, comme beaucoup d'autres loisirs, et loisirs culturels surtout. Et donc, il se trouve que la photo a plu au jury, et j'en étais ravie.
Oui, chers auditeurs, je peux vous assurer que leur enthousiasme a été multiplié, effectivement, dans l'espace où nous étions. Mais c'est vrai que sur le côté reconnu au niveau du public, oui, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi, avant d'aller un peu plus loin, parce que je sais que c'est le culturel, le côté écrivain qui vous intéresse, et transmettre surtout à des collégiens, ça, je trouve ça quand même très pertinent. C'est qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter tout de même à ce marathon? Parce que c'est quand même pas évident. Et qu'est-ce qui vous a amené avant de passer sur votre parcours?
Alors, c'est pas la première fois que je participe à un marathon photographique. Ce que j'aime, en fait, dans ce genre d'organisation, c'est le côté un peu challenge. Et puis, le fait qu'il faut répondre très vite à une consigne, puisqu'on a une thématique et qu'on a un temps assez limité pour arriver à sortir une photo. Ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que la photo doit être brute, spontanée. Elle peut pas, on peut pas faire d'editing, ça veut dire on peut pas retravailler, on peut pas trop trier parce qu'on est avec notre écran. Et donc on est obligé de réussir la photo, donc il y a un côté un peu hasardeux aussi, même si à force des années, j'ai développé peut-être un petit œil photographique et donc je fais un peu attention à ce que je fais, mais j'aime ça. Et pour moi, c'est la même chose que ce que je peux pratiquer en atelier d'écriture. Une consigne, un temps limité, et il faut arriver à sortir quelque chose.
Ah oui, ça, c'est trois axes qui sont effectivement pertinents, surtout qu'en plus, en tant qu'enseignante auprès des quatrièmes, si je ne m'abuse.
Oui, de la sixième à la troisième.
Ça va, la sixième à la troisième, d'accord. Par rapport à cela, ça veut dire que vous leur transmettez une rigueur, vous leur transmettez l'esprit de curiosité. C'est tout, pas mal d'éléments. Et en même temps, comme là vous le dites sur le fait de pouvoir être rapide, quand là vous êtes avec les jeunes, en plus, ils ne travaillent avec vous dans le côté culturel que sur des projets. Donc quand vous dites la rapidité, c'est de savoir comment opérer, vous les mettez énormément, vous, sur le terrain, c'est quand même énormément de transmettre. Donc comment vous opérez avec eux et comment vous travaillez? Parce que vous avez un projet, on en parlera plus tard, que vous renouvelez depuis plusieurs années. Mais en premier, comment vous travaillez avec les jeunes là-haut, du collège?
Mais je pense que dans tous les établissements scolaires, on est obligé de travailler en temps limité parce qu'on fait des mini-sprints. En gros, une heure de cours, ça dure 55 minutes. Et donc, il faut qu'en 55 minutes, on arrive à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés préalablement et qui correspondent à des injonctions qui sont institutionnelles. Donc, la question, c'est comment développer des stratégies avec des adolescents qui sont un groupe, mais qui sont aussi des individualités. Pour faire passer, alors pas un maximum de choses, parce qu'on n'est pas dans le gavage du tout. En tout cas, moi, c'est pas
du tout votre principe.
Et puis, c'est pas ma vision du métier.
Non,
mais comment trouver des stratégies pour, mine de rien, les intéresser, leur faire apprendre quelque chose. Et moi, depuis très longtemps, je me suis rendu compte que c'était le côté projet et surtout en s'appuyant sur des partenaires culturels qu'on arrive le mieux à embarquer des groupes entiers.
Donc par rapport à cela, faut qu'ils se sentent impliqués, à la limite de les rendre acteurs, responsables d'un projet.
Oui, mais un peu par surprise. Il y a un petit peu quand même d'entourloupe.
C'est-à-dire que expliquez-moi tout ça, ainsi qu'aux auditeurs. Entourloupe, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ça veut dire qu'on les prend, on les embarque un peu malgré eux. Parce que ça leur tombe dessus, ils n'ont rien demandé.
Et comment vous faites, justement? Parce que capter...
Ben, ça demande beaucoup d'énergie.
Ben ouais, parce qu'entre 6e et 4e, bon, en gros, c'est un peu quand même l'adolescence ou préadolescence. Oui. C'est pas un âge simple. De code langage. Vous arrivez-vous à les capter? Donc, comment vous arrivez justement à les séduire, entre guillemets, via le culturel, pour capter leur attention? Et puis, c'est des beaux projets à chaque fois qu'ils vous présentent. Donc, comment vous opérez, justement?
Parce que 55 minutes,
vous disiez, c'est court, bon, oui. Régulier. Oui. Mais comment faites-vous?
Je pense que c'est un peu la magie du partenariat, justement, quand on fait intervenir dans la classe, qui est quand même un endroit un peu sacré. Quelqu'un d'extérieur qui d'un coup va venir bousculer les codes et remettre en question des choses qui ont été bien mises en place, donc ça signifie qu'il faut d'abord bien mettre en place les codes avant de pouvoir les déstructurer un peu. C'est là que ça se passe, c'est là que ça s'opère. Et donc des élèves qui ne seraient pas partie prenante au départ ou demandeurs d'un projet finissent par se laisser séduire parce qu'ils sont dans l'action. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement... Je caricature aussi, mais assis derrière une table avec un crayon et un cahier, quoi.
Alors justement, comme vous dites que vous cassez les codes, mais effectivement, en ayant une maîtrise du métier, mais ça, je pense déjà les auditeurs l'entendent bien dans votre façon de présenter votre travail. Comment, sur les premiers jours de la rentrée, il y a forcément un accueil, ils doivent être peut-être interpellés, il doit y avoir donc une évolution. Mais comment vous êtes accueillis, puisque justement, vous cassez les codes? Comment ça démarre?
Au début, il peut y avoir un peu de réticence. Le but, c'est d'éveiller la curiosité. Alors, comment ça se passe? C'est un peu mystérieux. Mm-hmm. Ça se passe parce qu'il y a l'implication. Il y a mon implication. Mm-hmm. Moi, j'y crois. Mm-hmm. Et l'implication des gens avec qui je travaille, des comédiens ou des gens extérieurs qui viennent tous du milieu de la culture et qui ont cette passion qui est indéniable et qui se voit. Et comme les enfants sont mis en action, du coup, ils s'embarquent les uns les autres et c'est là que ça s'opère. C'est là que c'est assez magique. Et même les réticents au début de l'année, finalement, finissent par s'y mettre et finissent par... pas du tout malgré eux, hein, parce qu'ils comprennent le but du projet. Ça prend du sens. Tout prend du sens. Et ils finissent par, à la fin de l'année, demander si ils vont recommencer. Donc ça veut dire que c'est gagné.
Ça c'est clair que c'est une belle réussite si vous entendez ces propos. Mais ça veut dire que donc vous leur permettez, peut-être que je suis trop loin, mais à trouver leur place. Parce que bon, pareil, ils se cherchent quand même un peu à cet âge-là. Et grâce au projet que vous allez leur proposer, en tout cas à construire, ils trouvent leur place et que à la limite vous leur permettez ça sur cette évolution, sur l'année. À être plus justement impliqué, rigoureux, partagé, être à l'écoute du copain d'à côté, je ne sais pas, sur
comment ça se... Oui, ça se joue sur tous les terrains que vous venez de citer, parce que moi je mène des projets qui sont des projets de classe, c'est-à-dire que je prends tous les élèves d'une classe sans leur demander s'ils sont consentants ou pas. Et du coup, il faut que chacun arrive à tirer profit de ça. Et parfois, ça met un peu de temps pour chacun. Donc que ce soit un projet de lecture à voix haute, un projet de monter sur scène, un projet d'utiliser la photographie, pourquoi pas. À un moment ou à un autre, par le biais de l'observation, parce que aussi naturellement, il y a des élèves qui vont être un peu leaders, un peu meneurs et qui vont entraîner leurs copains. C'est une histoire de confiance entre eux, avec moi. Alors déjà, moi je leur dis et je leur répète souvent que j'ai confiance en eux, je sais qu'ils vont y arriver. Dans les projets, mais pas que dans les projets, dans mon enseignement aussi. Et à partir de là, il y a une écoute qui se fait et du coup un intérêt qui se développe parce que la confiance existe et qu'elle est réciproque.
Donc ça fait partie par rapport à votre travail du programme que vous avez dans l'année. Mais par rapport à ça justement, puisque vous êtes en décalé, vous voulez amener donc on va dire un enseignement nouveau en quelque sorte pour les impliquer. Comment c'est, ça a été accueilli ce programme? Parce que bon, il y a peut-être d'autres enseignants où c'est plus classique, traditionnel dans leur façon de faire. Ça, il y a besoin d'une validation ou c'est vous qui en avez la maîtrise?
Non, c'est ma façon de travailler. C'est ma façon de travailler. Après, évidemment, on est suivi par les chefs d'établissement qui acceptent qu'on travaille de cette façon-là. Mm-hmm. Après, je ne suis pas révolutionnaire non plus dans mon métier.
Ah non, je ne sais pas cette...
Peut-être, mais je crois que c'est ça la base de l'enseignant. On est des adultes, ils sont des enfants, ils sont chacun des ados, des pré-ados différents. Mm-hmm. Ils ont affaire toute la journée à des enseignants qui sont des personnes et qui sont des personnes différentes. On amène notre personnalité.
D'accord.
Pas notre intimité, pas notre vie privée, mais on amène est. Et moi, qui je suis, c'est le partenariat, c'est la culture, c'est un regard sur le monde qui est plein de curiosité tout le temps. Et j'essaye de transmettre ça à mes élèves, à mes classes. J'essaye.
Oh, c'est pas que vous... Non. Il y a une belle humilité, mais c'est pas que j'essaye. Vu tous les propos, même si on se connaît pas, c'est vrai beaucoup, mais tel que vous le présentez, je pense que vous réussissez. Parce que quand vous me dites qu'à la fin de, ça y est, de l'année, oui, ils ont réussi leur projet, ils sont enthousiasmés alors qu'ils étaient dubitatifs au démarrage... C'est quand même, je pense, un beau démarrage de rentrée, un beau final, en tout cas scénario culturel.
Femme novatrice, Sophie Nanin.
Là, Anne, par rapport à ce que vous présentez, effectivement, vous les mettez dans une conviction et dans un engagement, envie d'aller un peu plus loin. Alors oui, vous essayez, j'ai bien entendu, mais quand même, par rapport à votre projet, donc, qui est une année de vive voix, c'est effectivement quand même aussi une belle appellation. Quel est justement, alors, le processus, l'histoire, comment vous opérez? Parce que là, si j'ai bien compris, il y a des partenaires aussi qui sont avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un peu le détail pour bien comprendre tout ce que vous apportez? Vous avez apporté de la photo et de la joie au marathon du Festival MAP. Là, ce sont effectivement des collégiens. Comment vous opérez? Donc concrètement dans ce concept.
Très, très concrètement, ce projet d'année de vive voix existe depuis entre 15 et 20 ans. À peu près, une bonne quinzaine d'années. Et il est porté par l'association Confluence, qui est spécialisée dans la lecture à voix haute, qui est basée à Montauban et qui, tous les ans, organise le festival Lettres d'automne, qui consiste à recevoir des écrivains contemporains, à les mettre en valeur et, pendant 15 jours, à organiser un maximum de rencontres et de spectacles autour de la lecture et surtout de la lecture à voix haute. Donc ça veut dire qu'on a des partenaires qui sont des écrivains et d'autres qui sont des comédiens et qui essaient de mêler les deux. Et du coup, il y a une déclinaison scolaire de ce projet d'association, en fait, qui s'appelle une année de vive voix et qui consiste pendant presque l'année scolaire entière, à force de travail et parce qu'il y a des ateliers menés avec des comédiens et des comédiennes, à amener une classe entière d'élèves, donc c'est de la sixième à la terminale, il y a tout type d'élèves qui se rencontrent à la fin de l'année. On les amène sur scène à lire de façon collective un texte qu'on a choisi avec eux. Voilà.
Et là, le texte donc, que vous avez choisi avec eux, c'est quoi? C'est aussi bien, je ne sais pas moi, d'Alexandre Dumas, c'est même les nouveaux auteurs de maintenant. Est-ce que ça peut être là les policiers comme il peut y avoir? Enfin, je ne sais pas. Au niveau du texte, ça va être lequel? Ou est-ce qu'il y a une trame, un fil conducteur que vous leur imposez?
Il n'y a pas de trame qui soit imposée par le règlement de cette action-là, par le partenaire. En revanche, on nous demande de ne pas mettre de texte de théâtre, parce que la lecture théâtrale est différente de la lecture à voix haute de romans. Mmh. Donc on est tous beaucoup sur des extraits de romans, mais on peut insuffler aussi des groupements de textes sur une thématique. En fait, c'est chaque enseignant qui décide, en fonction de son travail personnel et en fonction de la tranche d'âge aussi.
Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs établissements qui en font partie. Et donc là, ce projet Année de Vive Voix est dans plusieurs établissements. Vers Montauban ou c'est à Toulouse aussi, ou à Auch, ou à Rodez?
En fait, c'est un projet qui touche toute l'Occitanie, et alors anciennement Midi-Pyrénées quand même, parce qu'il faut faire, se déplacer les comédiens. Donc il peut y avoir l'île Jourdain, il peut y avoir Gourdon, il peut y avoir des établissements toulousains, Montauban évidemment, moi qui suis un peu plus loin que Montauban. Le Tarn-et-Garonne en général, mais en fait il y a des établissements qui viennent de partout et qui travaillent là-dessus. Et moi personnellement, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce projet-là. J'ai beaucoup travaillé, je vais continuer à travailler avec une comédienne qui s'appelle Nathalie Vidal, qui fait partie des comédiens connus sur Toulouse. Et je travaille beaucoup sur la littérature contemporaine et en particulier sur la littérature jeunesse.
D'accord.
Parce que c'est adapté à la tranche d'âge de mes élèves et que je trouve ça passionnant. Donc ça peut être un extrait de roman, ça peut être un album aussi, parce que le texte dans les albums est très important. Une année, j'avais travaillé sur un groupement de textes autour de chansons. Ça peut être vraiment très varié. Il faut que ça plaise aux élèves, parce que s'ils ne croient pas dans ce projet-là, c'est un peu compliqué.
Donc ça peut être, vous leur donnez donc un fil conducteur, mais ils peuvent choisir de leur côté, et c'est vous qui validez ou pas. Mais
oui,
vous êtes
ça.
Tellement précise dans ce que vous présentez, normalement, ils trouvent et vous validez en général. Mais là, ce que je trouve assez génial dans votre projet, c'est que, c'est toujours Toulouse, le monde urbain, mais moi, ce que j'aime bien dans votre projet, c'est que de ruralité, il y a quand même des écoles partout, et ce projet-là peut être complètement multiplié et ouvert. Comme vous le savez, Radio Présence, on est quand même sur Midi-Pyrénées, vous le disiez avant Occitanie, c'est exactement ça. Donc il y en a qui sont à l'écoute, je ne veux pas que ce soit que Toulouse, mon émission, je veux que ce soit justement des femmes de partout, et surtout par rapport à ce que vous transmettez. Eux-mêmes, comment peuvent-ils faire ils se rattachent à l'école pour voir un peu s'ils font partie de ce projet-là. Comment ça peut opérer? Parce que là, sur les présentations que vous faites, ça fait partie d'une association. Mais comment c'est choisi, ou les établissements sont choisis? Comment ça opère à ce niveau-là? Et de préciser là aux auditeurs dans quelle école, ou quelle ville plutôt, ça sera plus simple, dans quelle ville ils peuvent retrouver effectivement ce programme.
En fait, le programme, il est initié vraiment par l'association Confluence.
Donc c'est vers Confluence, oui, surtout qu'il faut aller.
C'est cette association qui envoie les données dans les établissements scolaires, et après, on répond à cet appel à projet ou pas. Et tous les ans, il y a entre 10 et 12 établissements, collèges et lycées, qui participent. Et ça peut être collèges de tout type, rural, urbain, des lycées professionnels. On a vraiment tout type de profils d'élèves et de classes qui se rencontrent à la fin de l'année, puisqu'ils deviennent spectateurs les uns des autres. C'est assez magique, ça aussi.
C'est plus que magique, parce que vous faites une interconnexion de sujets qui vont présenter justement de la ruralité ou du monde urbain. Les approches ne vont pas être les mêmes, les visions ne vont pas être les mêmes. Ils vont pouvoir se compléter, et ça doit être assez pertinent. Et l'événement de fin d'année, c'est quoi comme style de rencontre? C'est un peu auberge espagnole, ou il y a quelque chose, un travail, en revanche, entre, collèges qui se rencontrent et les projets sont présentés à ce moment-là, ou c'est plutôt un événement qui est, une fois que le travail est terminé, on se rencontre tous?
En fait, c'est un projet qui est vraiment très complet. C'est pour ça que ça dure une année, comme le titre l'indique, une année de vive voix, parce qu'on commence par une formation des enseignants avec les comédiens qui vont intervenir en atelier dans nos classes.
D'accord.
Donc nous sommes formés.
Okay.
Et donc on bute sur les mêmes exercices que ceux qu'on va demander à nos élèves, ce qui est toujours très intéressant. Ensuite, il y a une rencontre avec deux auteurs qui lisent sur scène leurs textes, qui ont l'habitude de ça, et qui après viennent dans les classes pour rencontrer les élèves aussi, pour parler du côté écriture. Parce qu'on est vraiment sur un projet de lecture, mais avant de lire un texte, il faut qu'il soit écrit. Donc ils ont aussi affaire à des écrivains qui viennent à leur rencontre. Et dans l'année, toutes les classes ont trois ateliers de 2 heures avec les comédiens intervenants sur la lecture à voix haute. Donc il y a aussi le travail du corps, etc. Mais on n'est pas sur le côté théâtral, on est vraiment sur le côté lecture à voix haute. Et à la fin de l'année, les classes passent les unes devant les autres pour montrer le travail qui a été accompli, pour arriver à valoriser le travail de groupe. Et il y a ce côté à la fois stressant, mais en même temps très porteur, puisque c'est toute la classe qui est sur scène. Et qu'on a des classes de 30 à 35 élèves quand on est au lycée. Donc il faut arriver, en gros on a 15 minutes de lecture pour la classe, donc en 15 minutes, il faut que les 30 ou 35 élèves aient chacun un petit bout. Alors, ils lisent à plusieurs en même temps, ils lisent chacun leur tour, on trouve des astuces, des stratégies, pour que ce soit beau, pour que ce soit captivant, et surtout pour qu'ils arrivent à transmettre le texte.
Et à part, justement, pour qu'on comprenne bien tous par rapport au travail, au niveau donc enseignement, dans le cadre du... qu'on puisse bien comprendre la partie donc, enseignement en français, où c'est carrément une thématique qui est dans le cadre français, ou au contraire, je sais pas, vous êtes prof de théâtre, et puis c'est là-dessus que vous travaillez et vous calez cela, ou est-ce que de lecture, de côté écriture, c'est dans le cadre des cours de français, pour que l'auditeur comprenne bien?
C'est vraiment dans le cadre des cours de français, parce voilà. Que les faire travailler la lecture et l'écriture en rencontrant des comédiens, des auteurs, en fait, ça leur fait travailler toutes les compétences qu'on leur demande de travailler s'ils sont simplement assis derrière leur table et qu'on leur demande de lire. Parce que là, ils lisent, mais ils lisent pour eux, donc on vérifie la compréhension, on leur apprend à lire correctement, le plus possible. Mm-hmm. Et puis à devenir des lecteurs aussi très, très fins pour aller dans le détail du texte et à transmettre. Et parfois, la transmission de la lecture, elle est un peu oubliée. Or que là, là ils sont obligés, puisqu'ils lisent devant un public. Et devant un public qui a mené le même projet qu'eux. Donc, il y a cette rencontre aussi assez extraordinaire.
Il y a un partage.
Ils sont entre pairs.
Et alors, justement, par rapport à cela, il y a donc une synergie qui se met en place. Et ceux qui ne suivent pas ce programme, il y a une véritable différence, puisque vous parliez de confiance tout à l'heure, vous parliez de côté scénique. Donc, parler devant un nombre de personnes, ce n'est pas simple. Déjà, parler parfois avec son prof, pas simple non plus, ou ses parents. Mais vous avez vu alors, je ne sais pas si c'est une évolution plus rapide, je ne sais pas. Mais par rapport à d'autres collégiens qui n'ont pas suivi ce programme, et qui suivent bon, forcément, bien évidemment, des cours de français, où il y a une différence. Quel est le plus, la valeur ajoutée de ce programme donc de vive voix?
Parce que
c'est énorme, là, ce que vous apportez pour
oui,
moi.
Oui, la valeur ajoutée, alors c'est très difficile d'arriver à quantifier l'efficacité d'un enseignement. Hein.
Non, mais dans la partie, vous voyez, parce que vous avez quand même le sens humain, comment là, vous le ressentez, vous, de votre côté?
En fait, je pense qu'il y a peut-être un petit côté... de mise à l'aise à l'oral, même si ils sont en groupe quand ils sont sur scène, donc ils se sentent à la fois portés et protégés par le groupe. Ça les aide un tout petit peu quand ils passent seuls, par exemple l'oral de brevet, l'épreuve d'oral de brevet, mais là ils sont seuls, donc c'est pas tout à fait la même énergie à mettre. Mais en fait, ils deviennent lecteurs. Et pour certains, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'ils ont... Pareil, parfois on a des élèves qui trouvent des petites stratégies pour ne pas lire un livre en entier ou pour regarder une adaptation du livre qui sera au programme, au cinéma, enfin des choses comme ça. Mm-hmm. Et là, on essaye de développer le goût de la lecture. Et le goût de la lecture, il passe par ce type de projet. Mm-hmm. Parce que lire pour lire, ça n'a pas de sens.
Mm-hmm. Et l'écriture, ils vont avoir un style? Parce que souvent on parle de faute d'orthographe, de syntaxe, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que là-dessus, au contraire, il y a une aisance que vous installez, un peu comme à l'oral, l'éloquence, ils vont avoir ça, vous leur permettez cette évolution un peu plus rapide, et puis surtout avec plaisir qu'ils le fassent, et que ce ne soit pas imposé. C'est avec plaisir, vous leur passez tout cela, vous voyez ce résultat-là?
Mais dans la mesure où ils vont être obligés de porter un texte, il faut d'abord qu'ils le comprennent, et pour le comprendre, il faut qu'ils deviennent des lecteurs vraiment aguerris. Pour devenir un lecteur aguerri, pour moi, enfin, c'est comme ça que j'enseigne dans ma discipline, il faut faire attention aux mots, faire attention au son des mots, faire attention à l'articulation, à la syntaxe dans les phrases. Et en observant ça de très près chez les autres, je pense que ça peut contaminer leur écriture, leur façon de s'exprimer.
Ah, là,
ça, j'en suis vraiment convaincue.
Ah, ouais.
Et moi, dans ma vie personnelle, je suis beaucoup d'ateliers d'écriture.
Oui.
Et à chaque fois, quand on commence le tour de table et qu'on dit « Mais pourquoi vous êtes là ?», moi, je dis « Je viens faire un atelier d'écriture parce que je veux apprendre à mieux lire. » Et pour moi, c'est totalement lié, en fait.
Ah, j'aime bien votre formation. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Là, est-ce que vous pouvez au moins mentionner où est-ce qu'on peut trouver, donc là, le programme et là, l'appellation, où les auditeurs peuvent s'en rapprocher et aller voir un peu ce qu'il en est, ce programme, avoir un peu plus de détails pour qu'il y ait une continuité. Si vous aimez transmettre, moi, c'est un peu pareil, et partager, de rappeler donc là le nom de ce programme. Et où est-ce qu'ils peuvent le trouver, si c'est site web ou réseaux sociaux, je ne sais pas,
alors,
pour terminer l'émission.
Il suffit d'aller sur le site de l'association Confluence, avec un S à Montauban, qui est situé rue de la Petite Comédie. Et en allant sur le site internet, on trouve les actions qui sont les actions scolaires. Donc là, très prochainement, il va y avoir le programme de lettres d'automne qui va commencer au mois de novembre. Donc ce festival de lecture à voix haute. Et en même temps, on peut retrouver toutes les données pour s'inscrire à ce projet quand on est dans le milieu scolaire.
Alors là, vous me bluffez. C'est comme, chers auditeurs, vous le savez, je connais Anne Scotto depuis peu de temps. Mais alors là, j'ai appris plein de choses et c'est un programme encore plus amplifié et qui transmet énormément de choses. Donc merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et je pense que vous nous avez appris beaucoup de choses. Donc surtout, retenez bien ces informations, Anne Scotto. Donc Confluence, allez voir, allez plus loin dans la démarche. Et je vous dis à la semaine prochaine.